Donc bienvenue à tous. Très heureux de me retrouver avec vous ce soir. Alors vous savez que depuis qu'on a repris les activités de jeunesse au début du mois de janvier, on aborde ce thème ensemble de intitulé Religion zéro. Et le but qu'on se donne, c'est de faire en sorte d'être les moins religieux possibles pour être les plus spirituels possibles. Notre but, c'est d'atteindre le niveau zéro de la religion, pour être un disciple à 100%. Ça, c'est notre objectif. On ne peut pas être les deux à la fois. Si on choisit d'être disciple de Jésus, ça veut dire qu'on vit quelque chose de spirituel, ça veut dire qu'on vit une relation avec Jésus. Donc, ça exclut la religion. Alors, je ne vais pas revenir, je ne vais pas vous résumer tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Si vous voulez voir ça, notamment pour ceux qui sont avec nous pour la première fois ce soir, vous pouvez retrouver les autres messages sur le site du groupe de jeunes.
Ce soir, ça va être le dernier volet là, de cette série. Et on va ensemble se poser une question, une dernière question qui va nous conduire dans ce thème-là. Tout d'abord, vous savez que chaque samedi soir, pratiquement, sauf quand Guillaume a parlé de la parabole des deux fils, et puis Sandrine nous a entretenu aussi sur laisser Dieu agir plutôt que d'agir, mais le texte qui nous sert de fil rouge, c'est Matthieu 23. Et dans l'évangile de Matthieu, quand vous commencez la lecture de cet évangile-là, au chapitre 5, vous voyez Jésus qui fait une super prédication. Il est sur la montagne, c'est pour ça qu'on appelle ça le sermon sur la montagne, la prédication sur la montagne, et il nous a dit qu'il y avait une foule qui était devant lui, mais il y avait aussi ses disciples. Et vous savez que quand il va s'adresser à ses disciples, vous savez comment il va commencer cette prédication ? Quels sont les mots qu'il va utiliser, qui vont revenir comme ça, on appelle ça les béatitudes. Il dit « Heureux, ceux qui font le choix de devenir mes disciples, ils sont heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés, car ils seront consolés, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, etc. etc. » Heureux. Donc ça veut dire que quand tu es un disciple, quand tu as ce désir de te mettre à l'écoute de Jésus, tu es heureux, heureux. Ça c'est Matthieu 5. La relation de Jésus avec les disciples. Tu vas à Matthieu 23, et là, Jésus, il ne s'adresse pas à ses disciples, il s'adresse aux scribes et aux pharisiens. Et les scribes et les pharisiens, c'était des gens religieux de son époque. Et là, il leur envoie des missiles, hein, sérieux, poum, poum, poum. Et quand il s'adresse à eux, il dit pas heureux les scribes et les pharisiens, vous vous souvenez ce qu'il dit ? Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Donc la conclusion, elle est facile à avoir, hein, c'est préférable d'être un disciple, parce que être un disciple, avoir une relation spirituelle avec Jésus, ça rend heureux, ça rend heureux. Par contre, quand tu es religieux, c'est le malheur. Alors soit un disciple, soit pas un religieux. Ok, voilà, message est terminé, je vais faire un appel. En fait, en gros, c'est ça quand même, le but. Alors la question qu'on va se poser ce soir, la dernière question qu'on va se poser, c'est le fond ou la forme. Le fond ou la forme. Parce que l'évangile, c'est le fond, et la religion, c'est la forme. Et le premier point qu'on va voir ensemble ce soir, c'est tout d'abord, la religion est sélective. On va retourner à Matthieu 23. Là, on va voir comment Jésus va encore bien tacler les scribes et les pharisiens. Hein. Et on va lire les versets 13-15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer deux fois plus que vous. Bam, punchline. Ils se prennent bien ça encore dans la figure, hein, les scribes et les pharisiens. Au verset 13, Jésus dit « Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes. » Vous vous souvenez, on a déjà vu ça, mais les scribes et les pharisiens pensaient que les règles, les traditions, les apparences de piété pouvaient permettre d'avoir une relation avec Dieu. Ils misaient tout là-dessus. Jésus dit qu'ils se trompent en prêchant ça. Il dit « Non, ça ne vous permet pas d'avoir le salut, ça ne vous permet pas d'entrer dans la présence de Dieu. » Au contraire, il parle de l'enfer. Là. C'est quand même assez sévère ce que dit Jésus. Vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes. Imagine la situation. Il y a un jeune là qui a envie de rencontrer des chrétiens, un jeune là qui entend parler de Jésus, bah, tiens, Jean-David, il y a un divin qui lui a parlé, et puis il vient, ou alors là, il n'y a pas très longtemps, il y a une jeune qui a, qui avait soif, qui avait envie de découvrir l'évangile, elle allait sur Internet, elle a tapé sur Google, et puis elle est tombée sur le site de l'église. Elle m'a dit, bah, j'ai vu, je suis allé sur le site de l'église, et l'église, elle est bien cotée. Alors je pense que c'est parce que sur le Facebook de l'église, il y a des likes. Et donc, ah, elle est venue. Alors on imagine, voilà, qu'il y a quelqu'un comme Jean-David, ou comme cette jeune qui vient, elle a envie d'écouter la parole, de savoir ce que dit la Bible, de connaître Dieu, prend la connaissance de l'horaire, donc elle voit 18h, là, rien de jeune. Et puis, pour une raison ou pour une autre, elle arrive devant la porte, là, mais il est 18h10. Et puis là, il y a Luc, qui est chargé de l'accueil, et qui lui dit, « Eh, wow, 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 la réunion, elle est à 18h. » Et là, t'as vu, il est 18h10, t'as pas respecté la règle, t'as pas respecté l'horaire. Donc, tu peux pas entrer, je te ferme la porte, tu peux pas venir dans le groupe, tu peux pas faire partie de notre groupe. Bon, heureusement pour Jean-David, ça s'est bien passé, il est plutôt content d'être avec nous. Mais imagine cette situation-là. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis que la religion est sélective? Parce que pour la religion, il faut pleinement adhérer à ses exigences pour être sauvé. Et si la personne qui arrive dans l'église ne correspond pas immédiatement à nos codes, on ne l'accepte pas. Il faudrait d'une certaine manière que les gens qui viennent nous ressemblent déjà. Un peu qu'ils aient déjà là des notions de comment on est quand on est un chrétien. Et si cette personne, elle correspond pas tellement à ce qu'on attend, si elle dérange le groupe, s'il faut faire un effort trop grand pour l'intégrer, hop, on la refuse. Alors on va pas lui fermer la porte au nez, mais on peut, là, comme ça, faire en sorte qu'elle s'isole. Vous voyez, ça peut arriver, ce genre de choses. On veut bien accueillir parce que c'est une église, et qu'on sait qu'une église c'est un lieu ouvert, et que par nature une église c'est fait pour accueillir les gens, mais il ne faut pas quand même que ça demande trop d'efforts. Je te dis ça parce que je crois vraiment que c'est important que les uns et les autres, là, on puisse se programmer comme ça, pour être accueillant. Pour ne pas fermer la porte, mais pour l'ouvrir toute grande. Quels que soient les gens comme ils arrivent. Il y a quelques années en arrière, te raconter une histoire, c'est pas hyper glorieux, mais pour moi ça m'a beaucoup touché. C'était à l'issue d'une réunion, un dimanche après-midi, si je me souviens bien, et il y a une personne qui est venue, et cette personne, elle avait des problèmes d'alcool. Et donc elle est là, elle est venue, elle a écouté l'évangile, elle est venue 2-3 fois, et puis à un moment donné, elle a voulu aller vers les chrétiens, enfin les chrétiennes qui étaient là, c'était une femme. Il y avait des chrétiennes qui formaient un petit cercle, et puis elle est venue vers ces chrétiennes-là pour faire du contact, pour faire du lien. Et c'est vrai que quand on passait à côté de la dame, non seulement elle avait les paupières un peu lourdes, mais on sentait que l'odeur du pastis et tout ça. Et quand la dame est arrivée, elle dit « Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous poser quelques questions ?» À ce moment-là, les 5-6 personnes qui étaient en train de parler ensemble, ça m'a vraiment déchiré le cœur de voir ça. Parce que j'ai vu ça, donc je suis allé voir cette dame-là. Et en fait, sa démarche, c'était justement de parler de ses problèmes. Sa démarche, c'était de vouloir se confier, c'était de vouloir trouver une solution. Parce qu'elle ne voulait pas rester dans cet état-là. Et on a pu parler, on a pu discuter ensemble. Mais c'est pas normal. Et c'est tellement facile de se sentir dérangé quand les gens ne sont pas exactement comme on voudrait ou comme on attend qu'ils soient. Alors soyons vigilants par rapport à ça les uns et les autres. La religion, elle pousse à ce que l'église devienne un groupe fermé. Et ça peut arriver à un groupe de jeunes aussi. La religion, elle pousse à ce que l'église devienne un groupe qui est composé de personnes qui veulent être tranquilles, entre gens qui se ressemblent. Tu te souviens dans l'histoire de la parabole des deux fils, tu as le fils cadet qui part et puis qui revient. Et puis tu as le fils aîné qui reste. Et il a une réaction quand même terrible. Quand le père organise cette fête pour pouvoir accueillir le fils qui est revenu, qu'est-ce qui s'est passé pour le fils aîné? Oh, c'est pas si loin que ça, là. Ouais, il n'a pas voulu rentrer dans la maison pour faire la fête avec les autres. Et vous vous souvenez de ce qu'il dit à son père? Il dit, mais... Là, ton fils, il est allé dépenser tout ton argent avec les prostituées. Il arrive et le plus beau veau, le veau gras, tu le tues pour faire un immense barbecue, un immense méchoui pour te réjouir avec tous tes amis, tous les voisins. Et moi, qui a toujours été là, moi, je suis toujours resté dans la maison, et tu m'as même pas donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Avec mes amis. Lui, il veut bien avoir du contact, mais avec les gens qui lui ressemblent. Avec les gens qui sont comme lui. Sauf que si on veut être une église, si on veut être un groupe de jeunes chrétiens, il faut ouvrir notre cœur. Il faut être capable d'accueillir tout le monde. Jésus acceptait tout le monde. Il prenait les gens là où ils en étaient, il faisait d'eux de nouvelles personnes. Souviens-toi de l'histoire de la Samaritaine, par exemple, ou l'histoire de Zachée, le voleur. Et Jésus, il va chez lui, Zachée lui ouvre la porte, il va chez lui, et il devient une nouvelle personne. Il ne vole plus les gens. Et aujourd'hui encore, l'évangile, c'est accepter les gens là où ils en sont. Alors bon, on verra avec le temps si la personne accepte, comprend l'évangile, adhère à l'évangile, bien sûr, si elle change, si la parole a un écho favorable dans son cœur, mais il faut accorder du temps. On ne peut pas demander aux personnes d'avoir tout ce qu'on a ou de connaître tout ce qu'on connaît, d'avoir le comportement qu'on connaît parce que nous, on connaît la Bible depuis des années et des années. Vous voyez, c'est hyper important. Deuxième point, la religion est transmissible. Les règles morales, les rites, les codes, les traditions, on a vu tout ça, ça ne sauve pas. Mais le problème pour les religieux, c'est qu'ils le croient et qu'ils le font croire aux autres. Encore, ils le garderaient pour eux. Mais vu que c'est leur conception, ils le partagent, ils le transmettent sous cette forme-là. Il faut que tu fasses pour être sauvé. Voilà ce que tu dois faire, voilà les commandements, voilà les règles. Et ils peuvent être très zélés pour partager leurs convictions, et ceux qui gagnent à leurs idées peuvent devenir eux-mêmes encore plus zélés. C'est ce qui est dit au verset 15. Parce que la religion se transmet, effectivement. La religion, ce n'est pas une question de génération. Souvent, quand on pense religion, on pense... on pourrait facilement penser que la religion, ça concerne les vieilles personnes. Parce que les vieilles personnes, elles ont pris des habitudes, elles ont un peu leurs traditions, elles ont pensé pendant longtemps d'une certaine manière. Et c'est vrai que quand tu avances en âge, c'est un petit peu plus difficile de penser autrement. Alors, on a l'impression que ça concerne que les personnes un peu âgées qui ont des idées préconçues et puis qui n'en démordent pas. Non, c'est pas une question de génération. Des jeunes qui ont un esprit religieux, ça existe aussi. Quand on raisonne comme ça, c'est que la foi est comprise d'une façon religieuse. Elle est réduite à des principes qui ont pu être transmis par l'éducation. Et toi, venir à l'église, venir au culte, ou venir au groupe de jeunes, c'est comme être poli, c'est comme dire la vérité, c'est comme pas voler, c'est comme pas mettre son doigt dans son nez. Enfin, c'est le même genre. Tu mets tout sur le même plan. Des principes, des règles. C'est faire les choses parce que ça fait partie du décor. Parce que c'est normal de venir faire des choses à l'église. J'ai vu mes parents, je suis venu avec mes parents, alors je continue. Voilà, je suis sur ma lancée, je suis sur la dynamique. Ça pose vraiment la question d'une juste compréhension de la foi chrétienne. Ça me rappelle cette histoire de Patrick. Pas le copain de Bob l'éponge, non. De Patrick, le gars qui a annoncé l'évangile en Irlande, au 5e siècle. Donc ça fait quelques siècles en arrière. Mais c'était, il était zélé pour l'évangile, et il est parti, il a parcouru les campagnes, l'Irlande au 5e siècle, c'était un peu plus désert qu'aujourd'hui. Et puis il a eu des résultats, et notamment il y a un roi qui s'est converti, le roi Angus, et qui était sensible au message de l'évangile, et puis il a demandé le baptême. Alors Patrick a procédé au baptême du roi Angus, c'est ce qui est représenté sur ce vitrail. Et il y a peut-être un détail que vous avez remarqué. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose qui cloche? Alors, outre le fait qu'il est baptisé par aspersion, au 5e siècle, c'est une pratique qui existait, on ne baptisait plus par immersion, c'était plus le baptême biblique, mais il y a un truc un peu bizarre. Est-ce que vous voyez?
La couronne.
Alors, il a déposé la couronne pour pouvoir recevoir l'eau du baptême. Donc ça, c'est pas ça qui cloche. Alors. Non, il n'y a rien qui vous paraît bizarre, hein? Allez, je vous donne un petit indice. Vous voyez qu'il a dans sa main ce qu'on appelle une crosse, un bâton. C'est au niveau du bâton que ça cloche.
Le pied.
Ouais, voilà, bien joué, c'est ça. Le bâton de Patrick est posé sur le pied du roi Angus. En réalité, l'histoire nous dit qu'il n'a pas fait attention. Et il a posé son bâton
assez violemment sur le pied du roi Angus. Ça s'est enfoncé dans son pied. Ça pissait le sang par terre. Et puis il a fait le baptême, il a fait tout le rite. Et puis quand il a terminé le rite, il a enlevé son bâton. Il dit, oh, bah mince, j'ai blessé le roi. Et Patrick a dit, mais pourquoi vous avez rien dit? Et le roi Angus lui a dit, mais je croyais que ça faisait partie du rite. Alors il n'a rien dit. Ça c'est la religion. C'est faire les choses pour les faire, sans comprendre, par habitude, par tradition ou par imitation. Je les fais parce que tout le monde le fait. Alors si tout le monde fait comme ça dans l'église, dans le groupe de jeunes, sans doute que c'est bien. Ça fait pas de mal. Non, il faut bien comprendre que la foi chrétienne, c'est d'abord une vie. C'est d'abord une rencontre avec Jésus. La relation que j'ai avec Dieu grâce à Jésus, ça me transmet la vie. Dieu, il nous a créés les uns et les autres. C'est Dieu qui est la source de la vie. Et le problème, c'est que quand je me détourne de Dieu, quand je ne regarde pas à Dieu, la source de la vie, elle est coupée. Et c'est ce qui fait que je me trompe. Si je ne connais pas la volonté de Dieu, bah, je vais faire des choix qui vont avoir des conséquences négatives dans ma vie. Alors ce dont j'ai besoin, c'est de reconnecter avec la source de la vie. Et le seul moyen de reconnecter avec la source de la vie, c'est de reconnaître que Jésus est mon sauveur. Toi, le mal que tu commets, les fautes que tu commets, les erreurs que tu peux accomplir, ça te condamne aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu est pur, et il ne peut pas accepter quelqu'un qui fait le mal, même involontairement. Il ne peut pas l'accepter. Il est tellement pur. Alors, il ne peut pas accepter quelqu'un d'impur. Et Jésus, qui est le seul être humain que la terre ait porté, qui a été complètement pur, il a dit à Dieu, moi je prends la condamnation. Cette condamnation, pour qu'elle ne tombe pas sur toi, sur moi, sur nous, elle va tomber sur moi. J'accepte qu'elle tombe sur moi. Et à partir du moment où tu reconnais que Jésus, c'est celui qui t'a sauvé, c'est celui qui fait que Dieu te voit pur malgré ton impureté, et bien à ce moment-là, tu reçois la vie, tu reconnectes avec Dieu. C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne, c'est une question de connexion, de relation. Et tout ce dont tu as besoin, ça va passer au travers de cette relation. La vie, la vitalité, l'énergie, le renouvellement, la restauration dont tu as besoin, ça va être spirituel, ça va être une œuvre qui va s'accomplir dans ton être intérieur. Ce n'est pas les pratiques, ce n'est pas le fait de venir, c'est cette relation qui fera la différence. L'important, c'est de transmettre un message de vie, transmettre un message d'espoir, c'est de transmettre un message d'amour. Je crois vraiment que les gens qui sont autour de nous, ils ont besoin de ça. Alors, en tant que chrétien, il ne faut pas qu'on donne l'impression que la foi chrétienne, c'est des rites, c'est des traditions, c'est des choses à faire. Non. Que les gens voient. Souvenez quand on a parlé d'être un parfum, être le parfum de Christ. C'est ça. Là, parce qu'on a reçu cette vie, parce qu'on a cette joie malgré l'adversité, parce que là, on a cette possibilité d'être renouvelé et fortifié, les gens, ils le voient, ils le sentent, et ça donne envie. Ça, c'est être le parfum de Christ. La religion, ça pue. Le disciple sent bon. Il est parfumé. Il y a un mois de cela, je pense que l'information ne vous a pas échappé. Il y a eu la sépulture de René Angélil. Vous connaissez René Angélil, c'était l'époux de Céline Dion. Et il fallait vraiment être au fin fond de la forêt dans une grotte pour savoir que René Angélil était décédé, parce que Céline Dion est tellement populaire et tellement connue que ça a suscité une vague d'émotion au niveau international. Et la cérémonie d'enterrement de René Angélil a été retransmise par 4 télévisions nationales. Il y avait 12 caméras qui étaient disponibles dans l'église pour retransmettre la sépulture. Tellement il était connu, apprécié. Et l'un des moments les plus émouvants de la cérémonie, c'est quand le fils aîné de René Angélil et de Céline Dion, qui s'appelle René Charles, qui était âgé à peine de 15 ans, en fait il a eu 15 ans 3 jours après la sépulture, c'est quand il a pris la parole et qu'il a dit quelques mots pour honorer la mémoire de son père. Et j'ai relevé cet extrait. Il a dit « J'ai eu la chance d'être né dans une famille où il y a beaucoup d'amour. J'ai appris que ce qui compte le plus dans le monde, c'est la famille. Tu m'as laissé avec suffisamment de souvenirs. Et je vais m'assurer de transmettre à mes petits frères, Eddie et Nelson, qui ont 5 ans, ce que j'ai appris de toi. Je t'assure que nous allons tout faire pour vivre selon tes standards. » Wow. Moi, ça m'a parlé. C'est un enfant qui a grandi dans l'amour. Il a reçu l'amour de son père. Et son désir, c'est non seulement de vivre selon les standards qui lui ont été enseignés dans l'amour, mais c'est aussi de transmettre ces standards d'un père aimant. Je veux être le reflet de ce que tu m'as donné. Je veux être fidèle à ta mémoire, à ton souvenir, parce que tu m'as aimé. Et quand on réalise vraiment l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, ça nous chamboule, ça nous transforme. Et on veut le partager. On dit à Dieu, mais je veux vivre selon tes standards. Je veux m'inspirer de ta parole pour vivre, pour faire mes choix. Et on est motivé forcément à appliquer la parole parce qu'on aime Dieu. On n'est pas là pour nous obéir, se soumettre, mettre des fardeaux sur nos épaules. Non, on le fait par amour. Et quand on fait ça, on transmet l'image correcte d'un Dieu d'amour. On va voir un troisième point, le dernier point. On va retourner dans Matthieu 23. On va lire donc le troisième point, la religion inverse ce qui est prioritaire avec ce qui est secondaire. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous donnez à Dieu le dixième de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la compassion et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur aveugle, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est rempli de votre avidité et de votre manque de contrôle de vous-même. Pharisien aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe, et alors l'extérieur deviendra également propre. Pour la religion, le salut dépend de règles sous forme de textes bibliques à appliquer absolument, et non plus de la foi et de la relation avec Christ. On est tellement concentré sur ce qu'il paraît bien de faire qu'on peut en oublier l'essentiel, c'est-à-dire l'implication du cœur, la sincérité, la vérité dans la relation avec Dieu et dans la relation avec les autres, l'œuvre de transformation de mon caractère. C'est ça l'essentiel, c'est ça qui devrait être prioritaire. Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens de ne pas avoir le sens des proportions. Il leur dit qu'ils accordent trop d'importance à ce qui est secondaire et pas assez à ce qui devrait être prioritaire. Et il établit un parallèle entre la forme, qui est secondaire, et le fond, qui devrait être prioritaire. Alors il prend deux exemples, il rebondit sur la pratique de la dîme au verset 23. Vous allez voir qu'il fait le parallèle entre l'extérieur et l'intérieur. Vous savez que la pratique de la dîme, c'est donner 10% de ses revenus à Dieu. Alors ça, c'est une pratique biblique qui est prévue par la loi. C'était dit que les Juifs devaient offrir un dixième du fruit de la récolte ou de l'élevage. Donc si un Juif cultivait les figues, et que dans son arbre, dans sa récolte, il avait 100 figues, il devait prendre 10 figues pour les donner à Dieu. Pour un troupeau de moutons, s'il avait 100 moutons, il en donnait 10 pour les donner à Dieu. C'est une façon de remercier Dieu, de dire, tu as permis que mes moutons se multiplient, tu as permis que les figues poussent, et je peux en bénéficier, et je te remercie, donc je te redonne une part. Donc ça, c'était prévu par la loi, c'était biblique. Mais on voit que les scribes et les pharisiens étaient tellement scrupuleux dans ce domaine qu'ils calculaient un dixième des plantes aromatiques qui poussaient dans leur jardin pour l'offrir à Dieu. La menthe, le cumin, le fenouil. C'est comme si on allait dans notre jardin, on prenait, on dirait, combien j'ai de gerbes de persil qui vont pousser dans mon potager. Et hop, je vais cueillir 10% de mon persil pour l'offrir à Dieu. On comprend que c'est un peu secondaire quand même. C'était pousser le scrupule quand même très très, très loin. Jésus dit que cette pratique, même si elle est biblique, elle est secondaire. Ça, c'est la forme. Ce qui est prioritaire, c'est la justice, la compassion et la fidélité. Ça, c'est tout ce qui se passe dans le cœur. Être juste, être fidèle, manifester de la compassion, c'est dans le cœur. Ça, c'est le fond. Et Jésus illustre ses propos d'une manière humoristique, puisqu'au verset 24, il dit « Vous filtrez votre boisson pour... je t'en remercie. Vous éliminez un moustique, mais vous avalez un chameau. » Quand je vous dis qu'ils avaient un problème de proportion et de perspective, c'est ça, effectivement. Ok, vas-y. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Le chameau ou le moustique? Qu'est-ce que vous voyez mieux? Delric, plus le chameau, j'ai l'impression. ça paraît évident. Non, mais le moustique, il est là. Il est là, le moustique. fait, tu comprends bien que par rapport à un chameau, le moustique... Il est en train de dire, mais vous prenez 1000 précautions pour ne pas avaler un moustique qui est tombé dans votre verre, parce que c'était considéré comme un animal impur dans la loi, mais vous pouvez manger du chameau, en gros. Gros problème de comportement. Il y a un autre exemple qui est pris par Jésus au verset 25, c'est celui du nettoyage de la vaisselle. Alors là, il n'y avait pas de consigne particulière dans la loi à ce sujet, mais les pharisiens avaient mis en place des pratiques de purification pour que la vaisselle soit débarrassée de toute trace d'impureté. Enfin, il était très sévère là-dessus. Donc il y avait un rite de lavage des mains, qui d'ailleurs montait jusqu'au coude pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impureté qui tombe dans ce qu'on va manger, avant de se mettre à table. Il faisait en sorte de ne pas verser de l'eau non plus trop fort dans le récipient pour que l'impureté... Il pensait que l'impureté pouvait remonter le long du fil d'eau. Enfin, c'était vraiment très, 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 très scrupuleux. Mais Jésus dit que ces pratiques sont secondaires. Il dit ça, c'est de la forme. Ce qui est prioritaire, c'est d'éviter l'avidité et de savoir se contrôler soi-même. C'est ce qui est dit. Voilà, l'intérieur, là, c'est ça qui compte, qui est rempli de votre avidité, de votre manque de contrôle de vous-même. Ça, c'est le fond. Ça, c'est vraiment sur quoi vous devriez vous concentrer. C'est ça qui est prioritaire. Ce n'est pas les histoires de lavage de main, de la vaisselle. Les scribes et les pharisiens accordaient plus d'importance à ce qu'ils faisaient pour Dieu qu'à ce que Dieu faisait en eux. Ils font des efforts pour appliquer au mieux la parole, mais sans laisser la parole œuvrer en eux. Et je peux venir comme ça au groupe de jeunes, je peux venir à l'église et pour chanter, pour écouter la parole, pour être avec les autres, mais ça peut ne rien produire dans mon cœur. Je me contente de la forme en restant tout le temps le même. Ah, parce que j'ai pris l'habitude, je suis là, et puis bon, ok, je participe, mais il n'y a rien qui change dans mon cœur. Quand j'entends la parole, il n'y a rien qui change. Le disciple, par contre, lui, il se laisse changer par la parole pour pouvoir la mettre en pratique. Et c'est de toute manière qu'il ne pourra pas mettre la parole en pratique si Dieu ne l'aide pas. Il a besoin de cette relation avec Dieu. Dire, ah Dieu, là, je voudrais bien, là, ne pas me mettre en colère. Mais c'est ma nature, là, je suis emporté. Les choses m'énervent tellement facilement. Alors Dieu, viens m'aider. Là, par ton esprit, agis en moi. Puisque ta parole dit que c'est pas bon de se mettre en colère, ni pour nous, ni pour les autres, c'est clair. Ben, Dieu, viens m'aider à mettre en pratique ta parole. Viens m'aider à accomplir ta volonté. Et là, il va le faire. Il va œuvrer à l'intérieur, en nous. Tenez, on va faire une petite pause musicale avant de terminer. Je vais vous passer une musique et puis j'espère que ça va marcher parce qu'on a pris un peu de retard à cause de la technique tout à l'heure. Et puis vous allez me dire si vous reconnaissez. Alors, je vais mettre le micro pour bien entendre. C'est un film que moi j'ai vu quand j'étais enfant et qui m'avait marqué et je l'ai revu cette semaine avec beaucoup de plaisir. C'est un peu martial forcément. Alors, le pont de la rivière Kwai, il existe. C'est un film qui est tiré d'un événement réel. Le voilà, ça c'est le pont de la rivière Kwai, le vrai pont de la rivière Kwai. C'est un pont ferroviaire qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale en Thaïlande. C'était les Japonais qui contrôlaient toute une partie de l'Asie, et ils ont entrepris de construire une immense voie ferrée
sur les territoires qu'ils occupaient pour atteindre l'Inde. L'Inde qui était une colonie anglaise à l'époque, et les Anglais étaient en guerre contre les Japonais. Et la particularité de ce pont, c'est qu'il a été construit par les prisonniers de guerre, qui ont d'ailleurs beaucoup souffert à cause de maladies tropicales, le beriberi, tout ça. Et il y a aussi les bombardements. Et c'est ça, c'est cet événement-là qui a inspiré un roman qui a été adapté en film. Et le film raconte l'histoire du colonel Nicholson, qui a été fait prisonnier avec tout son régiment, et qui se met d'accord avec le chef du camp dans lequel il est interné, qui s'appelle le colonel Saito, méchant bonhomme, et il se met d'accord avec lui pour construire le pont afin d'éviter les mauvais traitements contre ses soldats, mais surtout contre ses officiers. Parce que le colonel Saito, il se dit, j'ai un pont à construire au-dessus de la rivière Kwai, parce qu'il y a un train qui va arriver, et puis si je ne termine pas dans les délais, vous savez, les Japonais, ils devaient se faire harakiri, c'est beaucoup. Il commence un peu à paniquer, donc il voulait que tout le monde travaille, et Nicholson, il négocie, il dit, non, on va procéder différemment, là, j'accepte de construire le pont. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que Nicholson, qui est anglais, donc là, il est complètement passionné par la construction du pont. Complètement. Il est hyper motivé. Il est tellement motivé qu'il motive les soldats qui sont prisonniers là avec lui. Il les mobilise, il les encourage. Il les motive tellement que même les soldats qui tombent malades et qui sont à l'infirmerie, il va les chercher. Il dit, allez, il faut faire un effort. Il faut qu'on les délais. Je ne fais plus le verbe. J'ai l'impression que mon esprit sort de mon corps. Je suis en train de faire une expérience spirituelle. On va tenir les délais. Les soldats, ils disent, OK, on y va. Il leur dit, surtout, ne tentez pas de vous évader. Ne tentez pas de vous évader, ça ne sert à rien. Ne sabotez pas la construction. Il est tellement pris, tellement passionné par la construction du pont. Et il est tellement fier de son ouvrage qu'il va même apposer une plaque qui indique que c'est son régiment qui a construit le pont sous son commandement. Alors ça, c'est l'image du pont qui a été construit là par les soldats, par les prisonniers. Et puis l'image d'après, on voit, il met une plaque, ce pont a été construit par le tel régiment sous le commandement du colonel Nicholson. Tellement fier d'avoir construit ce pont. Et tu vois que dans le film, ce que tu comprends, c'est que Nicholson, il a complètement perdu de vue qu'il était en guerre. Et que sa priorité, ça aurait été de combattre l'ennemi. Il se met au service des Japonais qui vont utiliser le pont pour aller envahir l'Inde, qui appartient aux Anglais à ce moment-là. Nicholson ne se concentre plus sur le combat qu'il devrait mener, pour saboter le pont, empêcher les travaux d'une manière ou d'une autre, mais il accorde une plus grande importance à la construction du pont. Et bien, un des pièges que nous tend la religion, c'est celui dans lequel est tombé Nicholson. C'est de nous détourner du vrai combat que nous devons mener contre nous-mêmes, contre nos défauts, contre nos tentations. Le combat qu'on doit mener pour nous améliorer, pour pouvoir toujours là être toujours plus ressemblé à Jésus. C'est étonnant parce qu'à un moment donné, les Britanniques, ils envoient un commando pour pouvoir détruire le pont, et puis ils disent, non, mon pont, détruisez pas mon pont. Complètement. Et, ouais, et c'est ce qui arrive quand on est dans la forme, quand on se trompe de cible, quand on ne donne pas les bonnes priorités. La religion, elle nous détourne de cette priorité en accordant une plus grande importance à l'extérieur des choses. Tu peux venir à l'église, tu peux chanter, tu peux écouter la parole, tu peux servir, tu peux faire du lien avec les autres, tu peux organiser un événement pour inviter des amis, et tout ça, c'est bien. En soi, c'est pas un problème. Mais le plus important, c'est que la parole, elle te change, c'est qu'elle te mette face à toi-même, et que tu puisses changer là où tu as besoin de changer. La religion, c'est quand tu donnes priorité à ce qui te conduit à Dieu plutôt qu'à Dieu lui-même. Le disciple, lui, fixe constamment son regard sur Dieu. Son objectif, c'est Dieu. Oui, je vais venir au groupe de jeunes ce soir, mais ça va être pour te rencontrer. Ça va être pas simplement pour lire un texte, c'est pas pour lire Matthieu 23, mais c'est pour entendre Jésus. C'est pour que moi, tu puisses me donner une parole pour moi. La religion, c'est quand tu donnes la priorité à la manière dont la parole est apportée plutôt qu'à son contenu. À la manière dont les chants sont interprétés plutôt qu'à ta rencontre avec Dieu. Le disciple, lui, il aspire à mieux connaître la parole pour mieux connaître Dieu. Le disciple, lui, il aspire à venir à profiter de ces moments là où on est dans la louange et dans la musique pour pouvoir vivre quelque chose dans cette relation avec Dieu. Parce que comme on l'a vécu tout à l'heure, la musique, ça nous porte, ça nous aide, ça dispose notre esprit et ça nous permet de nous concentrer sur Dieu. Et de dire là, Là, je veux te remettre là, mes soucis. Je veux trouver cette paix dont j'ai besoin. Je veux qu'au travers des chants, de la musique, des chants que je t'apporte, ma louange, je veux que mon cœur soit préparé à recevoir cette parole pour que je puisse changer là où j'ai besoin de changer. Je viens là pour te rencontrer, pour te remercier de ce que j'ai vécu dans cette semaine. Tu m'as aidé dans les examens. Tu m'as aidé là, dans telle circonstance, dans telle situation. Et mon cœur, je veux l'exprimer, je veux le répandre devant toi. La religion, c'est quand tu fixes ton attention sur la forme au lieu du fond. Le disciple lui donne la priorité au fond, sur la forme. Compter sur la forme pour grandir dans la foi, ça ne donne pas de résultat. Parce que la forme peut être aussi attrayante que déplaisante. Ta satisfaction est bien dépendante de celui qui prêche ou de celle qui prêche, celui qui chante ou de celle qui chante, des thèmes qui sont choisis, des chants qui sont choisis, des gens qui sont là ou qui ne sont pas là. Ça va dépendre de ça. Mais si mon objectif, c'est de rencontrer Dieu et de lui permettre de faire quelque chose en moi, sa parole aura un effet. Quelle que soit la personne qui apporte, quelle que soit la personne qui chante. Là, si mon objectif est de rencontrer Dieu et de rentrer dans sa présence, eh bien, elle se manifestera en moi, quelle que soit la personne qui conduit l'adoration, quels que soient les chants qui sont choisis. Je voudrais terminer, et on va se recueillir, on va se disposer à ce que le Seigneur puisse vraiment nous parler, vraiment ce qui se passe quelque chose dans notre cœur ce soir. Avec ces derniers versets qu'on trouve dans Matthieu 23, où Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, verset 27, vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourriture. » Des tombeaux blanchis. Quand la fête de Pâques approchait, les Juifs avaient l'habitude de répandre de la chaux sur leurs tombeaux. Alors, les gens n'étaient pas enterrés, ils étaient placés dans des tombeaux qui étaient creusés dans les falaises, dans le roc. Et toucher le contact avec les ossements ou avec des tombes, ça rendait impur. Et si quelqu'un était impur, il ne pouvait pas venir offrir son sacrifice au temple de Jérusalem. Alors, pour pouvoir bien repérer les tombeaux, on mettait de la chaux et ils étaient étincelants, ils étaient tout blancs. Et on savait que là, il ne fallait pas toucher, on pouvait faire un détour. Et Jésus, il est en train de dire, hein, encore aux scribes aux pharisiens, mais vous êtes tellement à l'extérieur, ça va, vous paraissez là comme de vrais adorateurs, des gens pieux, mais en réalité, à l'intérieur de vous, il ne se passe rien. C'est comme l'intérieur des tombeaux. C'est pourri, quoi, en gros. Il ne se passe rien, la parole, ça n'a pas d'effet. S'il est question de blancheur, je préfère qu'on fixe notre attention sur la blancheur que Jésus a acquise pour nous. Cette blancheur dont il est question dans l'Apocalypse, chapitre 7, où l'auteur de l'Apocalypse, là, voit des tas de gens, il voit toute une foule, il y a une vision, et puis il voit des centaines, des milliers de personnes qui sont en train de louer Dieu, qui sont en train d'adorer Dieu, comme on faisait tout à l'heure. Là, plein de gens. Et il remarque qu'ils ont tous un vêtement blanc. Et il y a un ange qui est là, puis il demande à l'ange, il lui dit, mais qui sont ces gens vêtus de robes blanches et d'où viennent-ils? Et je lui répondis, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Enfin, oui, d'ailleurs, c'est un des personnages qui voit qui lui pose la question. Il dit, la réponse est, ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution, mais ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Si tu veux blanchir quelque chose, tu ne le mets pas dans le sang d'habitude. Sauf que, souviens-toi de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus. Si tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, il te purifie. Là, le mal qu'il a fait, Dieu n'en tient plus compte. Et tu peux entrer dans sa présence et tu peux être comme cette foule immense qui est heureuse, qui est épanouie parce qu'elle peut rentrer dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur. On va se recueillir ensemble. Et mon désir, vraiment ce soir, c'est que le Seigneur puisse accomplir une œuvre en chacun d'entre nous. Ce que j'aimerais, c'est que les uns et les autres, à chaque fois qu'on a l'occasion de se réunir, soit le dimanche matin, soit le samedi soir, ou quelles que soient les autres occasions, que ce soit à Activa, au mois de mars, là, quand on va aller à Orléans, avec tous les autres jeunes de la région, mon désir, c'est qu'à chaque fois qu'une occasion comme ça se présente, c'est qu'on agisse comme des disciples. Dire, Seigneur, je veux être blanc, mais pas à l'extérieur, je veux être blanc à l'intérieur. Je veux que tu amène quelque chose dans mon cœur de nouveau. Je veux que ta parole ait un effet. Je veux pas que ce soit là un moment qui va passer, qui va ressembler à un autre moment. Non, je veux qu'il y ait quelque chose qui se produise. Ce qui est prioritaire, c'est ce que Dieu fait en moi. Ce qui est prioritaire, c'est qu'il me parle pour que je sois éclairé, pour que je puisse faire les bons choix dans ma vie, pour que je puisse vraiment être au fait de sa volonté. Ce qui est prioritaire, c'est que son esprit m'éclaire sur mes défauts, sur ce qui a besoin d'être corrigé, sur ce qui a besoin d'être d'être changé. Ce qui est prioritaire, c'est l'esprit dans lequel je fais les choses quand je viens quand je sers, quand je suis en relation avec les autres. Et là, l'application de la parole, c'est le fruit de mon esprit qui est changé par Dieu. C'est complètement différent. Il faut inverser les choses par rapport aux scribes aux pharisiens. Si on est des disciples, il faut inverser les choses. Je suis persuadé que Dieu va accomplir de grandes choses en nous, chacun d'entre nous. Dieu veut accomplir de grandes choses en toi. À chaque fois que tu es à l'écoute de sa parole. Il ne veut pas que tu restes avec ce qui t'empoisonne. Il ne veut pas que tu restes avec là ce qui malaxe dans ton cœur, dans ta conscience, qui t'a touché, ce qui t'a blessé, et qui peut-être crée de l'aigreur, de l'amertume. Parce que tu peux être là, venir samedi après samedi, et puis c'est toujours là, ça reste là. Mais la parole, elle est là justement pour que ça change, pour agir au plus profond de ton cœur. Aucun homme ne peut faire ça. Même ma prédication ce soir, elle ne peut pas faire ça. Ce qui va changer les choses, c'est ton désir que cette parole ait un effet au plus profond de toi-même. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut que tu aies la foi et que tu aies confiance et que tu dis, Seigneur, ça, je veux le déposer. Je ne veux pas venir là prier, chanter, écouter la parole, mais pas contrôler ma langue. Comme Jésus le reprochait aux scribes et aux pharisiens, je viens, je chante, mais en fait, bam, je suis en train de balancer sur ce qui m'entoure, je critique. Je veux là venir être... Et peut-être ne pas contrôler, je suis là et peut-être je ne contrôle pas mes sentiments, parce qu'il y a des gens que j'aime, il y a d'autres que j'ai du mal à aimer, je n'ai pas trop envie d'être avec eux. Ça, la forme prévaut sur le fond. Mais si je fais le choix d'être un disciple et de laisser le Saint-Esprit agir en moi, là quand je suis à l'église, c'est pour permettre à Dieu de faire quelque chose en moi. Je peux lui demander de contrôler ma langue. Seigneur, je reconnais que j'ai du mal avec ça. Alors mon désir, c'est, je te le confesse, là je le place devant toi, et je te demande de créer en moi un cœur nouveau, je te demande de m'aider à ce que cette œuvre intérieure, par ton esprit, s'accomplisse, pour que je puisse contrôler ma langue, pour que je puisse contrôler mes sentiments. Tu vois le mal que j'ai pour aller vers certaines personnes, c'est dur pour moi, parce qu'elles ne me correspondent pas. On est tous frères, on est tous sœurs, c'est ce que dit la parole, c'est ce que nous a enseigné Jésus. Seigneur, aide-moi. Tu vois que par moi-même, je ne peux pas y arriver, c'est impossible. Alors viens, que ta parole là, qui me dit, accueillez-vous les uns les autres, donne-moi de la mettre en pratique. Et que par ton esprit, parce que tu crées en moi, parce que tu changes en moi, eh bien je puisse vivre ça. Viens agir dans mes sentiments. Viens, tu vois la colère qui est dans mon cœur, la colère qui est là, parce que j'ai vécu des injustices. La colère qui est là parce que j'ai des projets, mes projets ne voient pas le jour. La colère qui est là parce que les études, ça ne fonctionne pas comme je voudrais. La colère qu'elle a parce que je ne suis peut-être pas dans la filière que j'aurais voulu. Et je ne suis pas bien et je sens que ça a des répercussions sur mon entourage. Mon Dieu, je ne peux pas y arriver par moi-même. Alors Seigneur, viens. Que ta parole qui m'invite à vivre ta paix puisse produire la paix dans mon cœur et dans ma vie. Cette paix-là, je ne peux pas l'avoir tout seul. Mais toi qui es le Dieu de paix, donne-moi ta paix. Transmets-moi ta paix. Communique-moi ta paix. Venir dans ta présence, c'est pour moi une occasion de développer la compassion dans mon cœur. Au lieu de condamner, je veux compatir. Aide-moi à comprendre les autres. Aide-moi à me mettre à leur portée. Aide-moi à me mettre à leur écoute. Parce que ça, je ne peux pas y arriver tout seul. C'est trop dur. Aide-moi à développer l'accueil au lieu du rejet. Aide-moi à développer la proximité au lieu de m'éloigner. Aide-moi à vivre la vérité au lieu du mensonge, au lieu des faux semblants. Aide-moi à être fidèle dans mes relations, au lieu de l'inconstance. Dépose ce qui te ronge à l'intérieur. Dépose là ce qui te trouble. Dépose ce qui te fait souffrir. La parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Elle va jusqu'au plus profond de ton cœur. Elle va jusqu'au plus profond de toi-même. Elle peut aller dans les domaines et les recoins que personne d'autre connaît. Et tu as l'occasion ce soir de pouvoir le déposer, de dire Seigneur, change-moi. Je veux plus de ça, c'est terminé. Ce que je veux, c'est être heureux, comme un disciple. Ce que je veux, c'est être à ton écoute pour que cette parole accomplisse cette œuvre par ton esprit au plus profond de moi-même. Dépose ton amertume, dépose ta jalousie, dépose là tout ce qui est, là, peut-être cette violence, cette injustice dont tu es victime, ou qui t'inspire de penser des pensées tellement négatives. Ce moment, simplement pour nous mettre face à Dieu. Ayons cette démarche de foi. Dieu est présent par son esprit. fais la promesse de sa présence à chaque fois qu'on se réunit, qu'on invoque le nom de Jésus. Et je crois que c'est de tout mon cœur qu'il est là ce soir, et c'est l'œuvre qu'il a.